à propos des fondements théologiques de notre conception du travail. Fait à l'image, à la ressemblance de Dieu lui-même dans l'univers visible et établi dans celui-ci pour dominer la terre, seul l'homme est capable de travail, seul l'homme l'accomplit, et par le fait même rempli de son travail son existence sur la terre. Pape Jean-Paul II, encyclique, Laborem Exercens, Le travail humain, 1981. Nous pouvons définir le travail comme tout effort, de l'esprit ou du corps, entrepris avec un objectif différent que le plaisir directement tiré de ce travail. Alfred Marshall, Principe d'économie politique, 1890. Qu'est-ce que le travail ? En règle générale, on en fait l'opposé du jeu, ce dernier étant décrit comme ce à quoi l'on s'adonne sans autre raison, juste pour le plaisir. Le travail, lui, est une activité, généralement pénible et répétitive, à laquelle on ne se livre pas pour elle-même, ou alors pas pour très longtemps, mais afin d'atteindre un autre objectif, se procurer à manger, édifier un mausolée. La plupart des langues possèdent un mot que l'on peut traduire, au moins approximativement, par « travail ». Toutefois, les limites exactes entre des notions que nous nommerions « travail »,« jeu », »,« enseignement », »,« apprentissage », »,« rituel » ou « réconfort » sont très mouvantes selon les cultures. Les sensibilités qui dominent aujourd'hui à propos du travail ont été modelées par une tradition née au Levant, qui apparaît dans les premiers chapitres du livre de la Genèse et dans les œuvres du poète épique grec Hésiode. Le récit biblique du Jardin d'Éden, tout comme le mythe de Prométhée, considère que l'obligation de travailler a été imposée aux hommes pour les punir d'avoir défié le Dieu créateur. En même temps, ces deux textes voient dans le labeur humain une sorte de concrétisation, à une échelle plus modeste, du pouvoir divin de création. En effet, ne nous permet-il pas de produire notre nourriture, de fabriquer nos vêtements, de construire nos cités, en somme, de bâtir notre propre univers matériel? Comme le disaient les existentialistes, nous sommes condamnés à être libres. Nous devons, contre notre gré, exercer ce pouvoir divin de création. Si cela ne tenait qu'à nous, plutôt que suer sang et eau pour extraire notre subsistance de la terre en nous couvrant de coupures et de durillons, nous préférerions certainement nommer les animaux dans le jardin d'Éden, nous régaler de nectar et d'ambroisie sur le mont Olympe, ou attendre que des oies rôties nous tombent dans le gosier au pays de Cocagne. D'aucuns pourront dire que ce n'est là qu'une traduction poétique des deux composantes essentielles du travail, telles que nous le définissons communément aujourd'hui, à savoir, 1. Une activité à laquelle, d'ordinaire, personne ne souhaite se livrer pour elle-même, donc une punition, mais 2. À laquelle on se plie néanmoins afin d'accomplir quelque chose qui va au-delà du travail, donc une création. Cependant, que cet « au-delà du travail » soit nécessairement une création ne tombe pas sous le sens. À vrai dire, c'est même un peu étrange. À bien y réfléchir, on ne peut pas dire que le travail crée quoi que ce soit. Il consiste plutôt, pour une large part, à entretenir et réorganiser des choses. Bertrand Russell l'exprime avec élégance dans son essai « Éloge de l'oisiveté », 1935. Et d'abord, qu'est-ce que le travail ? Il existe deux types de travail. Le premier consiste à déplacer une certaine quantité de matière se trouvant à la surface de la terre, ou dans le sol même. Le second, à dire à quelqu'un d'autre de le faire. Le premier type de travail est désagréable et mal payé. Le second est agréable et très bien payé. Prenez une tasse à café. Nous la produisons une fois, mais nous la lavons mille fois. Et même le travail que nous qualifions de productif, faire pousser des patates, façonner une pelle, assembler un ordinateur, n'est qu'une manière de composer avec des matériaux et des éléments déjà présents pour les transformer, remodeler ou réarranger. Voilà pourquoi j'affirme que notre concept de production et l'idée selon laquelle le travail se définit par sa productivité sont fondamentalement théologiques. Le Dieu judéo-chrétien a créé l'univers à partir du néant. C'est une singularité notable, car la plupart des dieux utilisent de la matière existante. Ses premiers fidèles et leurs descendants en sont venus à penser qu'ils étaient condamnés à l'imiter. Or, cela implique un tour de passe-passe. Il faut dissimuler toute la part du labeur humain, c'est-à-dire l'essentiel, qui ne produit rien à proprement parler. Cet artifice est rendu possible par la division sexuelle du travail. Dans le récit biblique de la chute, Dieu condamne les hommes à labourer la terre, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain », Genèse 3,19, et les femmes à porter leurs enfants dans des conditions tout aussi pénibles. « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, c'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde », Genèse 3,16. Le labeur masculin productif est ici conçu comme un équivalent de l'enfantement. Du point de vue des hommes, l'accouchement s'apparenterait en effet à la plus pure création ex nihilo dont les humains soient capables, l'enfant sortant apparemment de nulle part, entièrement formé. Le point de vue des femmes est probablement différent, mais dans ce texte, il n'a guère droit de citer. Or, c'est aussi un travail pénible. Cette vision est toujours d'actualité, comme le montre l'acception contemporaine des termes « production » et « reproduction » en sociologie. Étymologiquement, le verbe « produire » vient du latin « producere », qui signifie « engendrer » ou « faire apparaître ». On l'utilise encore dans ce sens quand on dit par exemple « elle a produit de nombreux documents à l'appui de sa défense ». Les deux concepts, production et reproduction, reposent sur une même métaphore. Dans le premier cas, des objets complètement finis jailliraient des usines. Dans le second, des bébés complètement finis jailliraient du corps des femmes. Évidemment, c'est tout aussi faux dans un cas que dans l'autre. Il n'empêche, au sein des sociétés patriarcales, les hommes aiment à croire qu'ils accomplissent sur le plan social ou culturel ce que les femmes accomplissent selon eux de manière naturelle. Ainsi, la production est une variante du fantasme masculin de mise au monde et simultanément d'action créatrice divine. De même qu'un dieu homme aurait créé l'univers par le seul pouvoir de son esprit et de ses paroles, les mâles s'imaginent créer le monde à la force de leurs pensées et de leurs muscles. Surtout, ils décrètent que c'est là l'essence même du « travail » et, pour sauvegarder cette illusion, délectent aux femmes la majeure partie du vrai labeur qui consiste à ordonner et entretenir les choses. Sur l'idée d'origine nord-européenne, selon laquelle le travail rémunéré est consubstantiel à l'accomplissement de l'être humain adulte. Répétons-le, la plupart des hypothèses sur lesquelles repose la théorie économique moderne ont des fondements religieux. Prenez l'un de ces postulats centraux, celui qui réduit l'être humain à ses efforts pour économiser. L'idée que, dans un monde compétitif, les agents rationnels agiront toujours en vue d'une allocation optimale des ressources rares. Ce postulat repose sur la vision augustinienne, énoncée en termes laïques par Thomas Hobbes au XVIIe siècle, selon laquelle les humains sont condamnés à nourrir des désirs infinis dans un univers fini, ce qui engendre naturellement une situation de compétition généralisée. Bien entendu, dans l'Europe du Moyen Âge, où les affaires économiques étaient régies par les lois de l'Église, personne ne cherchait à nier que ces questions étaient d'ordre théologique. Mais un autre élément est apparu au cours de cette période, un élément non explicitement religieux et qui a pris une importance considérable dans les définitions du travail futur, la notion de « service », d'origine essentiellement nord-européenne. Dans son principe, la société féodale était un vaste système de services. Les serfs, comme les petits seigneurs, étaient au service d'individus de rang supérieur qui, eux-mêmes, devaient au roi un service militaire, baptisé « hoste ». Cependant, ce n'est pas cette forme de service qui marquait le plus fortement les existences, mais ce que la sociologie historique anglo-saxonne a appelé le « life cycle service », c'est-à-dire le service domestique comme étape du parcours de vie. Pour schématiser, tout le monde ou presque devait passer les 7 à 15 premières années de sa vie active comme domestique dans un autre foyer que le sien. On connaît la façon dont cela se traduisait chez les artisans. Les jeunes étaient d'abord apprentis auprès de maîtres, puis devenaient compagnons, avant que l'accession au statut de maître ne leur donne les moyens de se marier, de fonder une famille, d'ouvrir leur propre atelier et d'y embaucher des apprentis à leur tour. Mais ce système était loin de se limiter aux artisans. Les paysans devaient souvent, à partir de l'adolescence, servir comme domestiques agricoles dans une autre ferme, en général au sein d'une famille un peu plus aisée que la leur. Cette obligation incombait aussi bien aux garçons qu'aux filles. Ces dernières étaient par exemple employées comme vachères. Surtout, elles n'épargnaient pas les élites. Ainsi, les pages étaient des apprentis chevaliers, et même les femmes de la noblesse, à l'exception de celles de très haut rang, devaient officier comme dames de compagnie pendant quelques années au cours de leur adolescence. Ces domestiques, au service d'une femme mariée de classe légèrement supérieure, s'occupaient de ses appartements, de sa toilette, de ses repas, etc. En même temps, elles étaient dans l'attente du moment où elles seraient à leur tour en position de se marier, de fonder un foyer et de devenir des aristocrates maîtresses de maison. En anglais, dame de compagnie se dit « lady in waiting » et « servir » à table se dit « to wait on ». Wait signifiant également « attendre ». On trouvait également, dans les cours royales, des gentilshommes domestiques chargés de veiller sur les appartements privés du roi. Le terme « serveur »,« waiter » ne s'applique plus aujourd'hui qu'aux personnes qui servent à table au restaurant, un vestige de l'économie de service. Cependant, dans les foyers victoriens, il désignait encore en priorité les domestiques, serviteurs, situés juste en dessous des majordomes. C'est ce que nous rappelle le mot « dumbwaiter », monte-plat. Les domestiques qui servaient à la table des maîtres se répandaient souvent en commérage sur les conversations qu'ils surprenaient. Les monte-plats mécaniques remplissaient exactement la même fonction, sauf qu'ils n'étaient pas doués de parole. Pour un jeune noble, servir signifiait essentiellement attendre un héritage, ou bien attendre que ses parents décident qu'il était suffisamment mûr et préparé pour mériter de se voir confier un titre et un domaine. C'était sans doute vrai aussi pour les domestiques agricoles. En revanche, chez les roturiers, de manière plus générale, les domestiques recevaient un salaire et devaient en épargner une bonne partie. De cette façon, ils acquéraient à la fois les connaissances et l'expérience requises pour tenir un ménage, un atelier ou une ferme, et les moyens financiers de les établir, ou bien pour les femmes, d'apporter une dot à un prétendant capable de le faire. Voilà pourquoi, à l'époque médiévale, on se mariait tard, le plus souvent autour de 30 ans. La jeunesse ou l'adolescence, cette période pendant laquelle il était considéré comme relativement normal d'être un peu sauvage, concupiscent et rebelle, durait 15 à 20 bonnes années. La rémunération des domestiques est un élément crucial. Elle signifie que le travail salarié existait déjà en Europe du Nord, des siècles avant l'aube du capitalisme, et surtout qu'il était presque unanimement considéré au Moyen Âge comme une condition honorable que l'on ne connaissait que dans la phase initiale de sa vie active. Service et travail salarié étaient largement confondus. Même à l'époque d'Oliver Cromwell, il arrivait encore que les journaliers soient appelés domestiques. Le service, lui, était conçu comme le processus permettant aux jeunes gens d'apprendre non seulement les fondements de leur métier, mais aussi les manières et les codes pour se conduire en adulte responsable. C'est ce que note dans un récit fréquemment cité un Vénitien visitant l'Angleterre autour de l'an 1500. Le défaut d'affection des Anglais se manifeste en particulier à l'égard de leurs enfants. Ils les gardent à la maison jusqu'à l'âge de 7 ou 9 ans tout au plus, après quoi ils envoient les garçons comme les filles se mettre au service de foyers étrangers, où ces derniers travaillent à la dure pendant 7 ou 9 ans. Ces jeunes gens s'appellent apprentis, et pendant cette période, ils exécutent les tâches les plus ingrates. Rares sont ceux à qui ce sort est épargné, car tout homme, si riche qu'il soit, place ses enfants dans les maisons des autres et, en retour, accueille les enfants d'étrangers dans la sienne. Demandez-leur les raisons d'une telle sévérité et ils vous répondront que c'est ainsi que leurs enfants acquièrent de meilleures manières. Dans la plupart des cas, cette période couvrait plutôt les premières années de l'adolescence. Au Moyen-Âge et au début de l'époque moderne, les manières étaient loin de se limiter au savoir-vivre. Elles désignaient plus généralement la façon d'agir et de se comporter dans le monde, ainsi que les habitudes, goûts et préférences de chacun. Autrement dit, à moins de se destiner à la prêtrise et à l'érudition, les jeunes gens étaient tenus de travailler chez d'autres personnes en échange d'un salaire, parce que travail rémunéré et éducation, tels qu'on les entend aujourd'hui, étaient vus comme une seule et même chose, un processus d'apprentissage de l'autodiscipline pour parvenir à maîtriser ses plus bas instincts et être capable de se conduire convenablement en adulte indépendant. Cela ne veut pas dire que la turbulence de la jeunesse n'avait pas droit de cité en ce temps-là, au contraire. Pendant leurs années de service dans d'autres foyers, ces gamins se créaient souvent une culture alternative bien à eux, organisée autour de confréries qui portaient des noms comme « les enfants sans souci » ou « les abbés du désordre » et qui étaient parfois autorisés à prendre temporairement le pouvoir lors des fêtes populaires. Mais le but ultime de ce labeur rigoureux aux ordres d'un chef de famille était de transformer ces adolescents en adultes autodisciplinés, prêts à travailler pour leur propre compte et non plus pour quelqu'un d'autre. Ce système, propre à l'Europe du Nord du Moyen-Âge, a donné naissance à des conceptions du travail bien différentes de celles qui prévalaient à l'époque classique, ou même de celles qui se sont imposées par la suite dans le monde méditerranéen, ce qui explique que l'émissaire vénitien ait pu être scandalisé par les pratiques anglaises. Ce que nous connaissons de la Grèce et de la Rome antique nous vient majoritairement d'aristocrates de sexe masculin qui considéraient que l'effort physique et la servitude n'étaient bons que pour les femmes et les esclaves. Le travail, soulignait Aristote, ne vous rend pas meilleur. Au contraire, il vous avilit puisqu'il accapare le temps que vous devriez consacrer à vos obligations sociales et politiques. C'est pour cette raison que la littérature classique insiste sur la dimension punitive du travail. Ses aspects créatifs et divins sont réservés à ces patriarches suffisamment riches pour ne pas avoir à se salir les mains et qui peuvent se contenter de dire aux autres ce qu'ils ont à faire. Au contraire, en Europe du Nord au Moyen-Âge et à la Renaissance, tout un chacun ou presque était amené à se salir les mains à un moment donné de son existence. Ainsi, dans l'Angleterre de la Renaissance, l'un des représentants du roi pouvait fort bien être un noble, employé comme domestique sous le titre de « groom of the stool » et chargé de vider le pot de chambre du souverain. En français, cette fonction s'appelait « porte-coton ». Par conséquent, le travail, en particulier rémunéré, était conçu comme un agent de transformation. Autrement dit, certains éléments centraux de ce qu'on appellerait plus tard l'éthique protestante du travail étaient déjà présents plusieurs siècles avant la naissance du protestantisme.